Le thème, c'est créativité. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à nos quatre intervenants, en commençant tout d'abord par Yves Luçon. Donc, je laisse le soin à chacun de se présenter, 10 minutes, un quart d'heure, puis ensuite débat avec la salle. Donc, Yves, à toi.
Bonjour. Alors, bon, j'ai écrit ce matin mon intervention. J'ai peur qu'elle soit un peu longue. Alors, vous me dites hein, si c'est trop long à un moment donné, mais je vais quand même rester sur ce que j'ai écrit. Donc, je m'appelle Yves Luçon. Je suis officiellement intervenant en thérapie sociale depuis 2016. Je dis officiellement parce que j'avais commencé à pratiquer un peu avant et j'étais même venu ici, je crois que c'était en 2014. J'avais fait un peu de prosélytisme sur mon approche. Maintenant, je l'incarne plus, je crois. Quand j'ai vu passer ce thème il y a un mois, je t'ai écrit, Jackie, en te disant je veux vraiment participer à cette table ronde pour deux raisons. La première, c'est que je vais animer un atelier début décembre de 4 jours sur le thème comment sortir de la lassitude au travail en faisant de la thérapie sociale. Et ça va être annoncé voilà, dans Psychologie Magazine de novembre et sur France Info. Je suis assez content. Et puis, j'ai moi-même fait un burn-out en 2010. Vraiment un gros épuisement professionnel. En 2010. Alors, burn-out, brown-out, bore-out, je ne sais pas si vous connaissez un peu la distinction de ces termes, mais en tout cas, j'étais épuisé et puis j'avais plus du tout envie de continuer mon métier de journaliste et de communicant. J'étais à Lyon dans une petite agence, j'étais vraiment isolé, content de pouvoir intégrer un collectif. Enfin, justement, je revenais de 20 ans de Paris où j'étais souvent pigiste et assez isolé. Et là, j'étais content de justement intégrer une entreprise pour pouvoir être intégré dans une équipe, pour pouvoir faire avec les autres. Et puis, ça correspondait justement à mes besoins, de vrai, à des défis collectifs, voilà, d'être intégré dans un groupe, dans une équipe. Et puis, c'était une agence de communication publique où on vendait de la démocratie participative. Alors, je me disais, justement, on va avoir de la démocratie participative, de la créativité collective, tout ça dans mon agence. Et en fait, je me suis rendu compte que cette agence, elle était dirigée par une tyran. Elle n'est pas là. Et puis, j'ai fait un burn-out au bout de 6 mois. Voilà. Je suis vraiment tombé de haut. Et en fait, cette agence fonctionnait selon des méthodes qui sont quand même souvent des méthodes qu'on retrouve dans les entreprises. Évaluation individuelle, un peu sauvage, où je me retrouvais dans son bureau. Voilà, c'est pas bien ce que tu as fait, c'est bien, machin, mais. Je sentais pas, il n'y avait pas de réunion d'équipe, c'était du chacun pour soi. Donc du coup, ça générait des peurs, peur d'être jugé, de l'isolement, du repli, et puis des ressentiments contre mes collègues. Et puis c'est comme ça que voilà, ma vie intérieure, pour reprendre l'expression d'Amy, Amy, votre prénom, elle était justement très négative. Alors, s'en est suivi un gros coup d'arrêt. Et puis, j'ai découvert cette formation de thérapie sociale. Alors, le métier, la définition du métier, c'est contribuer à rétablir la coopération dans des groupes et des systèmes traversés par des tensions, des peurs et séparations, empêchant des relations saines et constructives et la résolution de problèmes complexes. Alors, la coopération, j'ai sous les yeux un article de quelqu'un que vous connaissez sûrement. Vous connaissez sûrement ce nom, qui s'appelle Christophe Desjours. C'est un professeur en psychodynamique du travail. Je crois qu'il est psychologue, même peut-être psychanalyste, du CNAM, les arts et métiers, qui a écrit au début des années 90, 2000, le célèbre Souffrance en France, qui reste une référence pour qui étudie la problématique du mal-être au travail. Et son titre hein, de l'article, mais aussi de son travail, il est clair, c'est « La solution pour ne plus souffrir au travail, deux points, coopérer. Coopérer entre collègues. » Alors, il dit que justement, si la santé des corps dépend des conditions du travail, je vous donne quelques, très rapidement, deux, trois extraits de l'article. La santé mentale est principalement en rapport avec l'organisation du travail. Alors, il explique qu'il y a des PME, justement, certains ont pris le risque de rompre avec les méthodes gestionnaires, hein, comme je disais, hein, évaluation individuelle des performances. Qualité totale, critères de certification, flexibilisation, donc CDD, travail à temps partiel, vacations imposées, travail au noir aussi, ça arrive. Mais enfin, toutes ces méthodes, il y a des gens qui ont rompu avec ces méthodes, et il explique Le fait de rompre a permis de procéder à des expérimentations qui démontrent qu'on peut organiser le travail autrement et rétablir des rapports de qualité entre les salariés et l'organisation du travail avec des améliorations spectaculaires en matière de santé mentale. Alors, il explique aussi « La qualité et la productivité du travail dépendent de la mobilisation des ressources personnelles qui relèvent de son intelligence à lui, mais pas seulement. Elles dépendent aussi de l'intelligence au pluriel, c'est-à-dire de la formation de collectifs ou d'équipes de travail qui conjuguent les trouvailles ou la créativité des intelligences individuelles pour forger ce qu'on désigne le nom de coopération. La coopération ne tombe pas du ciel, elle se construit grâce à la mobilisation d'une autre forme d'intelligence qui est une intelligence délibérative. C'est par la discussion collective sur les différents modes opératoires possibles à l'intérieur d'une équipe que l'on parvient à des accords entre collègues sur les manières de faire et sur la base de ces accords issus de la délibération collective qui peuvent se construire des règles de travail. Voilà. Alors, je vais arrêter là, mais il se trouve que, justement, il dit « Lorsque la coopération existe, la solitude est conjurée et l'on bénéficie de l'entraide, de la prévenance, du savoir-vivre et de la solidarité des autres. L'élément décisif en matière de prévention des pathologies mentales au travail, c'est la coopération. » Voilà. Ça, c'est quand même... quelqu'un qui a travaillé pendant 20, 30 ans sur la problématique du mal-être au travail, de la souffrance au travail, et qui vraiment a conclu que la souffrance au travail était liée à des manques de coopération, donc à des manques d'espace pour coopérer. Et la vraie coopération, et ça, je vais vous en parler maintenant, elle existe qu'à partir du moment où il y a une possibilité de rentrer, de se confronter, de rentrer en conflit constructif, de se disputer au travail. Voilà. Il n'y a plus... Alors, il y a un autre chercheur qui s'appelle Yves Clos aussi, qui a travaillé là-dessus, mais sur cette idée de pouvoir recréer des espaces de dispute où on va pouvoir faire valoir qui on est, faire valoir ses idées, mais aussi ses valeurs, ses motivations, et justement de pouvoir sortir de cette vie intérieure et de pouvoir l'exprimer. Et pas seulement dans son journal, mais ça c'est important de pouvoir, effectivement c'est des exercices qu'on fait en thérapie sociale, je vais en parler, mais de pouvoir justement le dire au groupe face aux autres. Alors, moi aujourd'hui, comment on rétablit cette coopération justement? Mon travail est donc de contribuer à la rétablir avec les groupes. On est des êtres sociaux, on n'existe que dans la relation, que dans le corps social. Ça, je m'en rends compte vraiment, c'est-à-dire que tout seul, et y compris au travail, voilà, on se replie sur soi, alors que on existe en tant qu'être humain, on est des êtres sociaux, vraiment, on n'existe que dans la relation. Alors j'anime, depuis 2 ans, en tant qu'intervenant en thérapie sociale, j'anime ce qu'on appelle des analyses de pratiques professionnelles. Je ne sais pas si certains connaissent dans le milieu médical ou social. Alors surtout dans le social, moi je travaille pour des CCAS, services de prévention spécialisés, CADA, centre d'accueil des demandeurs d'asile, pour les équipes en fait sociales, les travailleurs sociaux, foyers d'accueil, etc. Je les accompagne, et c'est des équipes qui sont souvent en souffrance et qui l'expriment par des sentiments négatifs, des motivations, plus envie de se lever le matin, isolement, dégoût, déplaisir, rejet même de leur travail, manque de reconnaissance des collègues ou de la hiérarchie. Sentiment d'impuissance très fort, en fait. J'arriverai à rien, rien ne changera. Culpabilisation, auto-culpabilisation, c'est uniquement de ma faute ou c'est uniquement de la faute du chef. Voilà, donc en fait, le travail qu'on fait, la première chose qu'on fait, c'est de proposer un objectif au groupe qui répond directement à cette souffrance, qui est, par exemple, de réfléchir ensemble à comment on peut augmenter la motivation, sortir de l'isolement, retrouver du plaisir, gagner en reconnaissance, en considération, retrouver de la puissance, retrouver du sens. Ça, c'est un objectif, en fait, qu'on propose, et on va travailler ensemble à l'atteindre. Vraiment, on va créer, et mon travail, c'est de créer le cadre, calmer, augmenter la confiance, calmer les peurs, pour que les gens puissent rentrer dans ce processus d'intelligence collective. Donc, pour rentrer dans ce processus d'intelligence collective où on va vraiment régler, comment dire, travailler à résoudre ensemble ce problème complexe qui est le manque de motivation, qui est le fait de la souffrance aussi au travail, enfin le mal-être, je fais ce qu'on appelle une pré-tâche, c'est-à-dire j'harmonise les motivations, je crée un espace pour l'expression des doutes, des craintes de ne pas atteindre l'objectif. qui sont justement autant d'obstacles à être soi-même, connecté à ses intuitions, à sa confiance, à sa capacité d'empathie, tout ce qui permet la créativité aussi et la coopération, l'intelligence collective. Donc, je propose que les gens réfléchissent d'abord tout seuls, puis ensuite l'expriment en petits groupes, puis en grands groupes, sur leurs doutes, leurs craintes qu'on n'atteigne pas, qu'on ne soit pas capable ensemble de résoudre ce problème. Par exemple, ça peut être je doute que ça change quelque chose, je crains de ne pas avoir mon espace pour parler, ou je soupçonne qu'une fois que vous, l'animateur, vous ne serez plus là, les choses reviendront comme avant. Voilà. Et par rapport à ces objections, moi, mon travail, c'est de reformuler en besoin ces peurs. Alors vraiment, c'est vraiment un travail où on crée l'espace pour l'expression des peurs, étonnamment. C'est-à-dire que c'est par le négatif, c'est en rentrant dans le négatif qu'on va permettre aux gens de les traverser, les surmonter pour retrouver le positif, mais je dirais pour retrouver leur capacité à être eux-mêmes, à être connectés à eux-mêmes, parce que sinon on a des masques. Sinon on a le masque du gentil ou de celui qui est jamais content, mais c'est pas nous. Voilà. Donc c'est vraiment un travail sur le négatif, dans le cadre de cette fameuse étape d'harmonisation des motivations, mais aussi dans l'étape qui arrive après, qu'on appelle la constitution du groupe, où on va permettre aux gens, et là je vais vous proposer un petit exercice, tiens, où on va constituer un peu plus le groupe là. La constitution du groupe, ça a pour objectif de créer de la confiance dans le groupe, c'est-à-dire permettre aux gens d'exprimer justement leurs émotions, leurs sentiments face aux autres, et on va du coup permettre aux gens de se rencontrer en face à face et de se dire leurs inquiétudes, leurs peurs, leurs craintes les uns vis-à-vis des autres, pour pouvoir avancer ensemble, pour pouvoir coopérer, pour pouvoir parce que notre objectif final c'est quand même la coopération pour se retrouver. Et donc bon, je sais pas si je vais le faire l'exercice, mais pourquoi pas. Allez, vous choisissez votre voisin. Donc vous avez tous un voisin là ici, une voisine, un voisin. Et par rapport à notre objectif qui est de partager, d'échanger. Et vous me dites par rapport au temps, parce que j'en suis où là ? C'est hein, ça, bon. Ben ça va être l'exercice final. Ça va ? Je suis dans bon. Oui. Oh oui, ça va. Par rapport à l'objet, oui. On a un objectif commun qui est de réfléchir ensemble. Je sais que Jackie aime beaucoup les croisements, le fait que les gens se parlent, le fait que les gens échangent par rapport à qui ils sont, par rapport à leur sensibilité, par rapport à leurs expériences, à leur parcours, etc. Donc, est-ce que vous avez tous trouvé quelqu'un à côté de vous ? Par rapport à cet objectif, moi, je vais vous demander que chacun demande à l'autre 3 questions et inversement. Enfin, et voilà. Je pose la question à l'autre. Qu'est-ce qui t'inquiète en moi par rapport à cet objectif qu'on travaille ensemble ? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est qu'est-ce qui te manque en moi ? Alors, on ne se connaît pas forcément, donc voilà, il n'y a pas forcément... on est sur des préjugés, là, quand même, hein, évidemment. Et la troisième question, ce sera qu'est-ce que tu vois en moi maintenant ? Prenez 2 minutes, 2, 3 minutes pour vous le dire. La première question, qu'est-ce qui t'inquiète en moi par rapport à cet objectif, hein, qu'on y arrive ensemble ? Qu'est-ce qui t'inquiète ? C'est quoi ton doute ? Qu'est-ce qui t'inquiète en moi ? Ou qu'est-ce qui te fait peur en moi ? Mais qu'est-ce qui voilà. Qu'est-ce qui t'inquiète en moi ?
Qu'est-ce qui m'inquiète en toi ?
Non, qu'est-ce qui t'inquiète en moi ? Plutôt. Parce que ça prouve qu'on est intéressé. Ça prouve que nous, on est intéressé d'avoir le préjugé de l'autre. Deuxième question, qu'est-ce qui te manque en moi ? Eh bien, oui, donc, oui et non. Non, non, parce qu'on peut travailler avec nos préjugés, justement. On a beaucoup de préjugés sur les gens quand on ne les connaît pas, justement. Et qu'est-ce que tu vois en moi maintenant ? Et l'intérêt, c'est de, évidemment, comment dire ? L'idée, c'est que ces questions, vous allez vous les poser alternativement. C'est-à-dire, toi, André, tu vas demander à Yvette qu'est-ce qui t'inquiète en moi, et Yvette va te demander qu'est-ce qui t'inquiète en moi. Hein.
Si elle me donne
Oui. Mais dans les limites de la loi. Parce que j'ai pas envie de finir en prison. 2 minutes. Top départ. Ça rejoint sûrement des choses. C'est pas grave. L'idée, c'est de créer un peu de... Bon, alors, comment je vais conclure, alors ? Ok. Ok. Oui. Voilà.
Là, je pense que c'est... plus dans une situation de travail.
Oui. Oui, mais là, je le fais... Oui, oui, bien sûr. Par rapport au fait de travailler ensemble. Hein.
Et oui, c'est ça. Oui, voilà. Parce que c'était ça, pour encadrer, c'était dans l'analyse professionnelle.
Bah oui, ça marche.
En fait, c'est ça. Et c'est ensemble, c'est les employés ensemble qui travaillent à l'intérieur de...
Oui, c'est ça. Généralement, je le fais dans les services.
Oui, bah voilà, c'est ça.
Oui, oui. Oui, mais justement.
Alors, qu'est-ce que ça fait ? J'étais très jeune, j'aurais dit, moi, ce qui m'inquiète en plus, c'est que vous soyez des femmes.
Bah, si. Moi, je garantis le cadre, et je pense que là, il y a 3 femmes à côté de moi pour qui ça pose pas de problème que vous disiez ça.
En fait, c'est accepter aussi ce que vous avez envie de dire. Vous savez, ça fait partie de ça. Bon, non.
Dans 1 minute. Et je dépasserai pas à écart. On a 1h30 de toute façon. On a 1h30. Oh. Ouais.
Oui. Alors, c'est une grande feuille. Alors, après, dans mon sac,
oui.
C'est une plus grande feuille.
C'est. Je veux que je me prenne.
C'est une obligation.
Ouais, c'est obligé, obligé. Ah. Ouais.
C'est ça qui vous inquiète ? Bon, ça parle. Oui, mais moi j'ai trop. Je vais le dire.
Non, j'ai pas été. Vous avez recto, verso, il y en a d'autres. C'est bien. Du coup, ça va être intéressant ce que je vous ai dans les présentations. Ça va pas du tout pareil, parce que j'ai pas du tout. Moi, je suis rentré avant dans le sujet.
Jackie, Yvette et André, là, ça y est, ils sont.
Non, mais du coup, c'est bien, c'est chouette. Ça va être un peu plus éclectique. Que si on avait tous eu les mêmes, en fait, ça aurait été plus ennuyant, en fait, pour les personnes qui écoutent, quand c'est trop redondant.
Ouais,
je me suis dit, richesse, en fait.
Il y en a pas une qui parle.
Si, c'est. Comment vous appelez déjà ?
Béatrice. Ah, mais je parle du stress aussi un peu.
Ben oui, parce qu'en fait, mais en même temps, dans la sophrologie, c'est majoritaire. Enfin, si vous avez. Moi, je le nomme juste que, en fait, selon Kéline Guyane, en fait, c'est une psychologue anglaise, elle l'a découvert, elle a écrit un livre en disant qu'en fait, on pourrait faire ami-ami avec son stress. C'est juste ça que je cite, en fait. Mais voilà, je la cite juste là-dessus, qu'en fait, selon comment on va apprendre notre stress, si en fait, on se dit que ça va être quelque chose de bon et de plus positif sur nous, eh bien, du coup, on peut avoir cette. Battre notre cœur et d'y aller dans l'action. Et puis aussi, ça va oxygéner le cerveau parce que du coup, la respiration va être un petit peu plus rapide et ça va devenir plus de liberté. Voilà. Ah, ben voilà, c'est ça.
Et là, ça libère.
C'est bien. Mais oui.
Bon, on pourrait, ça pourrait durer longtemps. On va s'arrêter là, s'il vous plaît. La troisième question, vous avez réussi à y arriver. Qu'est-ce que tu vois en moi, qu'est-ce que tu vois en moi maintenant? Voilà. Donc, l'idée, c'est de pouvoir justement calmer les peurs, parce que dans une équipe, par exemple, même si c'est une équipe justement de collègues qui se connaissent, il y a plein de choses, et ça par expérience, les gens me disent à chaque fois, mais voilà, en 2 ans, 3 ans qu'on se connaît, il y a plein de choses qui ont été dites là, ça peut durer 2 heures, 3 heures, parce que chacun va rencontrer les autres, tous les autres. Donc on tourne, ça peut durer 2 heures, 3 heures, 4 heures. Et c'est incroyable, c'est très étonnant comment le groupe peut tout d'un coup se sentir en confiance, enfin, chacun va se sentir en confiance et va pouvoir, là, à ce moment-là, parler de ce qu'il ressent, de ses émotions, de ses sentiments, et puis les exprimer face aux autres. Et là, on va rentrer, du coup, dans ce qu'on appelle la phase de victimisation, responsabilisation, c'est-à-dire que c'est une étape pour arriver à l'intelligence collective, où on va créer un espace pour que les gens se disent de quoi ils se sentent victimes, y compris des autres, justement, surtout des autres qui sont présents. Alors ça peut être souvent les chefs, la hiérarchie en prend pour son grade, et pas tout le temps là, parce qu'en analyse de pratique, il n'y a pas les chefs. Mais si on peut le faire avec les chefs, c'est encore mieux, quand je dis les chefs, la hiérarchie. Parce que c'est là que les gens vont s'expliquer, vraiment vont s'expliquer. Et avant, que vous l'avez compris, on aura créé un cadre de confiance, en fait, avec cette harmonisation des motivations où chacun va pouvoir exprimer ses vrais besoins, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais derrière les craintes, les doutes par rapport à l'objectif, il y a nos vrais besoins dont on n'a pas toujours conscience et que moi je vais reformuler. Donc j'intègre en fait les besoins de chacun dans l'objectif. Donc ça permet à chacun de se sentir impliqué dans le travail qu'on fait ensemble. Ensuite, la constitution du groupe, ça crée la confiance, ce qu'on vient de faire, chacun va le faire avec les autres. Et là, on passe à la victimisation. Et là, la victimisation, c'est ce qu'on appelle aussi le conflit constructif, parce que débarrasser des violences qu'il pollue. Parce que le conflit et les violences, ce n'est pas la même chose. Voilà. Et puis, chacun se sent libre, y compris d'ailleurs d'exprimer des colères. Parce que la colère, elle peut ne pas être violente. Elle peut être saine, comme disait une présidente de région à Poitiers. Voilà, alors... Vous vous souvenez? Voilà, donc il y a des choses qui peuvent sortir. Moi, je trouve que tu ne m'informes pas assez sur ceci ou cela. Alors l'autre dit, oui, mais j'ai pas le temps. Ou j'ai l'impression qu'on peut jamais rien te dire. Tu vas m'envoyer paître. Oui, mais moi, je me protège. Je supporte pas qu'on me juge. Et puis, en fait, on va regarder que les peurs, soit elles correspondent à des dangers réels, et puis on regarde comment on peut faire pour les résoudre. Soit c'est des dangers imaginaires, fantasmés, parce que ça correspond à nos blessures, à notre passé. Et on regarde ça, on ne va pas allonger les gens, on ne va pas leur faire nous raconter toute leur vie, mais ils vont connecter, ils vont se dire « Ah oui, tiens, là j'ai peur de ça, mais en fait, c'était un peu fantasmé. » Donc tout ça, on le traverse, et puis ça permet du coup de recréer une véritable équipe qui fait corps, qui est intelligente ensemble et créative ensemble. Et on va pouvoir trouver ensemble, du coup, des améliorations dans l'organisation aussi, qui vont permettre de créer un espace, un environnement propice à la possibilité d'être soi, de se sentir... Et du coup, c'est complètement lié au plaisir de travailler, à la motivation... à la quête de sens, qui peut être une quête collective de sens, parce qu'effectivement, on ne peut pas travailler sans le sens. On prend du temps ensemble pour accorder nos violons, par exemple, pour parler d'une seule voix à la hiérarchie. Ça peut être quelque chose aussi qui peut être fait ensemble, sur des revendications communes, parce qu'il n'y a plus de syndicats aujourd'hui. Enfin bon. On va même pouvoir inviter la hiérarchie à réfléchir avec nous. Pourquoi pas? Ça, c'est un travail qui peut être fait. C'est un travail qui consiste à créer des cellules, en fait. On crée des cellules où, à l'intérieur de la cellule, à un moment donné, le climat va être favorable alors qu'il est défavorable à l'extérieur. On recrée des climats de coopération qui vont être des climats, allez, j'ose le terme, d'amour. Merci.
Merci Yves.
Allez, c'est une belle...
On continue les interventions, ça permettra d'avoir un débat général après. Donc, Élise Cogny, qui est praticienne en psychopédagogie positive et qui nous vient du Nord et de Sèvres, ou des Deux-Sèvres, du milieu,
du Nord,
carrément. Eh bien, à vous, allez-y.
Merci. Merci, Jackie.
Yves, pardon,
Jackie et Yves. Merci, Yves. Du coup, je mets juste le petit diaporama que je vous ai créé pour aujourd'hui. Alors, du coup, moi, je vais avoir une approche un peu différente.
Mais c'est plus pour ça.
Voilà, donc c'est très riche en fait, du coup, d'être quatre, de domaines un peu différents et qui nous regroupent, enfin qui ont, en fait, on se rejoint, donc ça va être un peu complémentaire. Il y a des choses qui vont se redire aussi un petit peu, si ça se met en route. Voilà. Donc en fait, moi je l'ai intitulé un peu le bonheur ça se travaille. En fait, dans mon métier, mon métier il est très diversifié. Je peux intervenir autant dans le monde du travail, autant dans le monde des apprentissages, parce qu'en fait, le but de la psychopédagogie positive, c'est surtout de savoir, c'est apprendre à apprendre. Donc en fait, moi, ce sera plus en termes de personnes et d'une personne, de vous, personne qui travaillez dans les entreprises. Donc pour ça, eh bien en fait, il y a déjà l'approche du cerveau triunique, qui en fait, déjà, l'idée de notre métier, c'est de savoir comment ça se passe au niveau de l'axe de la tête, du cœur et du corps. Et donc en fait, c'est tout simplement, moi je dirais, de savoir en fait un peu comment on fonctionne à l'intérieur de nous, et que déjà quand on le sait, eh bien déjà dans une entreprise, dans votre vie professionnelle, ça va déjà pouvoir vous aider. Parce que quand, enfin majoritairement, on ne sait pas trop qui on est, on se cherche, on ne sait pas trop nos besoins, on ne sait pas vraiment comment faire pour y arriver. Et puis on dit c'est de la faute de l'autre, donc en fait c'est aussi une société qui est beaucoup dans le jugement. Ah mais t'as pas fait ça comme ça, mais c'est pas comme ça que je t'ai dit de faire. Oui, mais en même temps, quand on voit le cerveau, en fait cette approche de Paul MacLean, eh bien justement en fait il y a tous ces étages là. Il y a le cerveau reptilien, donc qui est le corps, donc votre corps va vous parler. Mais est-ce que vous savez ce qu'il veut vous dire? Pas forcément. C'est déjà apprendre à le décoder. Ensuite il y a le cœur. Donc, est-ce que vous êtes conscient que chaque jour, nous travaillons avec nos émotions? Et que, comme vous disiez tout à l'heure, Amy, eh bien, tout ce qui se passe autour de nous, ça rentrera inconsciemment à l'intérieur de vous, dans votre travail. Et que se dire que les petits problèmes, vous allez laisser chez vous, oui, mais pas tout le temps. Et en fait, ils vont s'imprégner. Ils vont peut-être se faire ressentir si vous êtes fatigué, s'il y a plus de stress, voilà. Ça va forcément se ressentir à un moment donné. Et puis, donc, la tête, c'est connecté avec les émotions. Se dire que quand on a trop d'émotions à l'intérieur de nous, dans notre tête, après, ça devient brouillé. Donc, voilà, comment faire, en fait, pour trouver ça? On a tous les ressources à l'intérieur de nous, mais c'est plutôt de se dire, comment je fonctionne, en fait, à l'intérieur de ma tête? Et donc, pour être bien dans son travail, en fait, les recherches en neurosciences ont bien prouvé que, l'eau, c'était l'ami de votre cerveau. Puisque, du coup, ça paraît vraiment bête et anodin de vous dire ça, mais en fait, c'est vraiment typiquement prouvé. C'est-à-dire qu'en fait, à l'intérieur du cerveau, quand il y a un courant électrique là, pour alimenter la lumière, eh bien, il y a une turbine et il y a un courant qui est envoyé. Okay ? Eh bien, à l'intérieur de notre cerveau, c'est exactement pareil. Il y a nos neurones, les neurotransmetteurs, et en fait, du coup, ils vont se connecter les uns aux autres. Pour qu'ils se connectent plus vite, eh bien, quand on boit de l'eau, on va les aider pour que ça fasse un peu comme des fusées et que ça puisse aller beaucoup plus vite et qu'on puisse beaucoup plus réagir beaucoup plus vite, qu'on puisse avoir les idées beaucoup plus claires et que ça soit plus facile et fluide. Donc, en fait, il y a aussi tout le rapport aux émotions. Donc, j'ai mis que ça diminuait aussi la fatigue et le stress parce qu'en fait, on a l'amygdale au niveau du cerveau qui est... quand on rencontre à l'intérieur du cerveau, quand ça rencontre une émotion, eh bien, cette amygdale se met en action et du coup, ça fatigue énormément votre cerveau. Donc, les gens qui peuvent avoir des migraines, qui peuvent être très fatigués ou qui se disent « je vois plus rien, je ne sais plus », eh bien, en fait, c'est vrai que ça arrive assez souvent parce que forcément, il y a des émotions. Vous allez rencontrer votre collègue qui va vous dire un truc qui ne va pas du tout vous plaire. Et puis, ça va vous envoyer une émotion. Donc, après, vous allez vous dire « mais je ne sais plus ce que je voulais dire ». Du coup, voilà, essayez de pratiquer, de boire cette eau et puis de voir après votre réaction. Voilà, donc il y a aussi tout l'apport sur le corps, de faire pipi. Ça hydrate le corps et tout ça, mais vraiment aussi, ça va vous apporter vraiment une aisance dans votre métier en fait, de chaque jour. Donc, pour parler de ce stress dans le travail, eh bien, alors je ne vais pas m'étaler sur le stress, parce que le stress, il y a déjà mes deux collègues après qui vont en parler, donc je vais pas, pour éviter trop de répétitions quand même, je vais juste vous citer la phrase que on peut faire ami-ami avec son stress, et puis elles vous expliqueront pourquoi. Ensuite, on dit, enfin ça y est, maintenant en fait, c'est vraiment prouvé que, eh bien, plus on va personnaliser son espace de travail, et plus, eh bien, en fait, ça vous donnera envie d'y aller chaque jour, parce que quand vous imaginez qu'en septembre vous êtes arrivé et qu'après un été, bah, vous avez eu des super vacances, des super beaux paysages, que c'était tout beau, il y avait plein d'amour, vous étiez bienveillant avec vos familles, vous arrivez au boulot, vous avez un bureau qui est blanc, une chaise noire, et puis des collègues qui vous font bonjour. C'est pas super chouette, quoi. Bon, alors après, on peut pas attendre des autres, donc c'est-à-dire qu'on peut pas demander à vos collègues, vous pouvez pas leur demander, bah, tu pourrais pas sourire toute ta journée ? Bon, bah, s'il a pas envie, ça se passera pas. Par contre, vous-même, en fait, déjà, on peut se dire, ah bah tiens, mon bureau, peut-être que moi je le verrai vert. Ah bah ok, peut-être que je verrai une plante, peut-être que je vais y mettre un peu de couleur, sans que ça soit le bazar organisé, mais voilà, qu'au moins, il y a de la couleur et que ça soit plus vivant. Parce qu'en fait, les couleurs, elles ont vraiment un impact sur votre cerveau. Donc là, il y aura le bleu pour le côté pacifique, le côté un peu plus zen. Il y aura le côté vert des plantes et tout ça sur le côté de la sérénité. Il y aura le jaune pour la concentration. Il y aura le rouge pour la créativité. Donc en fait, voilà, les couleurs, elles ont vraiment un impact à l'intérieur de votre cerveau. Et puis, il y aura aussi le « j'arrête de râler ». Donc « j'arrête de râler », ça c'est très très français. C'est un peu trop français. C'est j'arrête de me plaindre. En fait, c'est arrêter de se plaindre et prendre ses responsabilités. Ça, c'est facile à dire, c'est moins facile à faire. Mais en fait, du coup, ça nous renvoie à chaque fois qu'on râle quelque chose de négatif à l'intérieur de nous. Et en fait, bah, du coup, ça peut pas faire avancer les choses. Donc, plutôt de partir en se disant oh, lui, il a pas fait là, ce que je voulais qu'il fasse. Ben oui, parce que c'est toujours ce qu'on se dit. Eh bien, en fait, je me dis peut-être, alors, quel besoin ça nourrit à l'intérieur de moi ? Donc, comme disait tout à l'heure Yves, il faut les connaître, ces besoins. Donc, parfois, ça demande aussi un petit travail d'introspection, de se dire, en fait, quel besoin me nourrit pas mon collègue ? Parce qu'en fait, si ça vous agace, c'est qu'indirectement, il y a un besoin chez lui qui n'est pas assouvi, ou qui chez vous n'est pas assouvi. C'est-à-dire que vous ne répondez pas à quelque chose, ou lui ne répond pas. Et alors là, ça m'énerve, donc je râle. T'aurais pu faire ça. Non. C'est plutôt de se dire, eh bien, quelle responsabilité je veux prendre par rapport à mes besoins. Puisque forcément, dans des entreprises, on ne peut pas prendre toutes les responsabilités de l'entreprise quand on n'est pas chef d'entreprise. Et puis même, en fait, même les chefs d'entreprise, ils ont besoin aussi d'avoir leurs responsabilités face à leurs besoins. Alors ça, ce sera encore un autre débat, de se dire, est-ce qu'ils savent vraiment les besoins de leurs salariés ? Est-ce qu'il y a un temps qui se pose pour savoir un peu les besoins de chacun, même si c'est difficile de répondre à tous les besoins ? Mais qu'est-ce qu'on peut faire déjà pour qu'il y ait une dominante en se disant, bah, il y a certainement un besoin de respect général. Est-ce que c'est le cas ? Pas très souvent, parce que si on est là en train de parler du bien-être au travail, c'est que majoritairement, il n'y a pas beaucoup de bienveillance dans les entreprises. Alors ça commence à venir, mais c'est encore un peu lent. Voilà, je pourrais vous parler pendant des heures, donc je vais continuer parce que sinon mes collègues n'auront pas assez de place. Alors du coup, eh bien, Isabelle Payot, qui est psychologue à Paris, eh bien, nous dit, j'aime beaucoup, elle fait du sketchnoting, donc ça c'en est, et elle dit qu'il y a 5 bonnes raisons d'adopter une attitude optimiste en fait, en entreprise. C'est l'idée de se dire que déjà, en fait, ça permet d'avoir de l'énergie. Donc en fait, eh bien, forcément que si vous, en fait, dans votre propre posture, vous arrivez et que vous avez de l'énergie, que vous êtes clair, que vous avez envie d'un projet, que eh ben, en fait, vous donnez à votre tête et à votre corps l'idée que ah, c'est possible, je vais pouvoir le faire. Ok, première étape. Deuxième étape, eh bien, en fait, vous allez diffuser. Ça va être un peu l'électron. Au début, il va vous regarder. Oh, c'est bizarre, elle est heureuse. Tiens. Alors, ça questionne. Forcément, on se dit, bon, ils sont bêtés bizarres. Hein. Les gens qui sont bien dans leur travail, c'est pas souvent. C'est rare, voilà, c'est pas possible. C'est souvent ce qu'on se dit. Sauf que si, en fait. Du coup, justement, ça va se diffuser. parce que cet optimisme, eh bien, en fait, ça va engendrer justement autour d'eux eh bien, une énergie positive en se disant « Ah, ben oui, moi aussi, j'aimerais bien lui ressembler, en fait. Alors, ben tiens, je vais peut-être me rapprocher de cette personne. » Parfois, il y a le sentiment de la jalousie qui va prendre un peu le dessus. Alors, ben ça, ça se travaille aussi. En se disant, ben, en fait, est-ce que j'en ai besoin de ce sentiment de jalousie? Ou alors, est-ce que je le mets là, je le pose? Et puis, par contre, je vais quand même vers ma collègue parce que ça m'intéresse. Donc, du coup, ça va générer de la créativité puisque, du coup, vous allez vous dire, ah ben, ok, ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire alors dans l'entreprise dans laquelle on est? Ah ben ouais, donc du coup, ça va donner un nouveau projet pour l'entreprise. Et puis, eh bien du coup, il y a plein de choses insoupçonnées qui vont pouvoir se mettre parce que tous les cerveaux ne fonctionnent pas de la même façon. Donc vous allez aller les voir, cette personne-là, puis vous allez vous dire, ah ben oui, alors toi, tu vois ça comme ça et moi je vois ça comme ça. Mais qu'est-ce qu'on peut faire alors? Ah ben moi je verrais bien ça et moi ça et puis en fait, voilà. Ça se crée comme ça petit à petit. Et donc du coup, eh bien après, ça donnera en fait cette image de vous où on aura envie de collaborer avec vous, d'être un peu une personne ressource au sein de cette entreprise. Ah oui, ben c'est chouette, je suis allée la voir et puis ça m'a donné envie de créer quelque chose avec elle. Et donc, ça va vous créer de nouveaux horizons et en fait, à l'intérieur de vous, ça va se nourrir. Et donc, du coup, vous serez bien avec vous-même. Voilà. Voilà en fait un petit peu la définition que je voulais vous apporter de ce que peut être en fait le bien-être au travail. J'espère, voilà, si vous avez des questions, pouvoir y répondre par la suite. Et puis, voilà, donc juste un livre qui est pas mal pour la pression au travail, c'est « Je dis enfin stop à la pression ». C'est 5 étapes pour se libérer de tout ça. Et puis, le Power Patate, donc ça c'est... Donc le premier, c'est Audrey Acoun et Isabelle Payot qui ont écrit ces livres-là. Et le Power Patate, c'est Florence Servan-Schreiber, une psychologue en psychologie positive. Voilà, merci à tous.
Merci. Juste une précision, vous oui. travaillez avec les entreprises, donc dans le nord de Sèvres, il y a quand même un tissu industriel, enfin, oui. PME, on fait appel à vous?
Ouais, c'est ça, oui, d'accord. Tout à fait.
Ok. Eh bien,
merci.
À votre voisine, Edwige Morcelet-Aléaume, qui elle est sophrologue, donc c'est encore un autre aperçu du problème du bien-être, du bonheur, je ne sais pas comment on peut le qualifier. Je vous laisse la parole à vous.
Entendez là, oui. Donc merci d'être là. Merci à Céline et ah oui. Merci à Céline et Jackie de me permettre d'être là et je suis ravie d'être présente avec vous. Donc je vais vous parler donc de la sophrologie qui est une méthode adaptée pour le mieux-être en entreprise. Donc premier constat en entreprise en 1, en 2 le stress mécanisme et conséquences et en 3 la sophrologie anti-stress par excellence. Alors, premier constat en entreprise, ça c'est d'après une étude de Deloitte et Cadre Emploi en 2015 qui montre que 7 salariés sur 10 montrent un fort état de stress professionnel, 68% pensent que le climat social au sein de l'entreprise n'est pas bon et 57% ont un sentiment de surcharge de travail. D'où la gestion des risques psychosociaux et l'amélioration de la qualité de vie en entreprise qui devient un enjeu majeur ces dernières années. Et la sophrologie entre dans ce cadre-là. Voilà. Alors, le stress, mécanismes et conséquences. Alors, les vecteurs de stress, donc ça, c'est d'après des études sur plus de 20 ans sur le stress humain, faites par Sonia Lupienne, qui est canadienne et chercheuse en neurosciences. Pendant plus de 20 ans, donc sur le stress, elle a écrit des livres, elle est conférencière, donc genre le stress par amour du stress, par exemple. Donc, elle définit 4 vecteurs. Donc, le premier, c'est s'il y a sens du contrôle diminué, S. S'il y a personnalité menacée, P. S'il y a une imprévisibilité, I. Et s'il y a une nouveauté, N. Donc, s'il y a un des vecteurs, il y a stress. Par contre, s'il y en a 2, 3 ou 4, le stress augmente, bien sûr. Mais il faut rappeler qu'il y a un bon et un mauvais stress, bien sûr. Voilà. Et ça, c'est d'après une courbe d'utilité au stress de Yeckers et Dodson, qui sont des psychologues américains. Donc, c'est de 1906, mais c'est toujours d'actualité. Donc là, vous voyez, niveau de stress et niveau de performance. Donc, au début, s'il y a une absence de stress, il y a ennui, inactivité. Donc là, la performance n'est pas là. S'il y a une stimulation, comme une nouveauté, par exemple, donc là, ça fait un bon stress. Ça nous fait nous sentir vivants, on a le, voilà, l'augmentation du rythme cardiaque, etc. Et là, on atteint ce niveau de stress optimal et la performance optimale. Et là, on est dans son besoin d'accomplissement. Donc, on est dans sa zone de réalisation, on est créatif, on est performant et on a confiance. Donc, ça permet, voilà. Par contre, si le stress continue, augmente, vous voyez, on arrive à la perturbation émotionnelle. Donc, mauvais stress, excès de stress entraîne, vous voyez, pression, anxiété, résistance, épuisement, burn-out, dépression. Voilà. Alors, comment ça se passe? Là, un stress arrive, une alarme, par exemple, une nouveauté. Vous avez synthèse d'adrénaline, de noradrénaline, qui vont permettre de passer à l'action. Et donc là, vous avez donc des réactions corporelles, comme augmentation du rythme cardiaque, comme je disais. Voilà, on peut rougir, trembler, etc. Donc la sophrologie va pouvoir déjà agir là, diminuer ses réactions corporelles, diminuer ce taux d'adrénaline, être plus performant. Par contre, si on n'agit pas, par toute autre technique aussi, hein, on arrive sur trop de stress, la résistance. Et là, on a synthèse de cortisol, qui permet un retour à l'équilibre par rapport à la synthèse d'adrénaline. Ça permet une adaptation, mais on a des tensions physiques, tensions musculo-squelettiques, insomnie, troubles du sommeil, voilà, anxiété. Donc là aussi, la sophrologie peut agir à ce niveau-là pour diminuer toutes ces tensions, tout ce taux de cortisol, etc. Mais si on n'agit pas et si on ne fait pas d'autres actions, on atteint ce excès de stress. Alors, l'épuisement, c'est souvent chez des personnes qui sont perfectionnistes et qui sont hyperactives. Elles ramènent le travail à la maison. Hein. Elles sont toujours dans le plus travail. On demande encore plus à ces personnes. Donc là, voilà. Donc, on a un excès de cortisol, excès d'adrénaline, faible taux magnésium, qui entraîne le corps, il ne peut plus faire face. Donc, les récepteurs sont saturés. Le corps dit stop et il y a les pathologies d'adaptation, donc burn-out, dépression et d'autres maladies plus graves. Voilà. Et la sophrologie peut agir là aussi, à ce moment-là. Alors, les bienfaits de la sophrologie sur le stress. Donc, si vous avez plus de stress, ça entraîne aussi des pensées négatives. Et chaque pensée négative a une énergie négative, entraîne des émotions négatives, des sensations négatives et des tensions musculaires. Ça entraîne donc la stimulation du système nerveux sympathique qui va entraîner donc la synthèse de ces hormones de stress. Voilà. La sophrologie, qu'est-ce qu'elle va permettre? Elle va permettre de diminuer ces pensées négatives, d'augmenter les pensées positives. Parce que la sophrologie, on se focalise sur le positif. On voit le positif. Et donc, plus on se focalise sur le positif, moins on voit le côté négatif. On a des sensations positives du fait des exercices que je vais vous montrer. Après, on se détend. Donc, on a l'esprit paisible dans un corps détendu. Voilà. Et on est dans l'instant présent. On ressent son corps ici, maintenant. Ça, c'est ce qui est important. On stimule donc le système nerveux parasympathique qui va permettre la synthèse d'acétylcholine qui va contrecarrer les hormones de stress et va entraîner aussi la synthèse des hormones du bien-être, sérotonine, dopamine, endorphine et ocytocine. Donc, on est mieux dans son corps. Le stress, c'est diminué. Voilà. Alors, pourquoi je vous dis la sophrologie anti-stress par excellence? Parce que c'est une méthode psychocorporelle. On va agir sur le corps et l'esprit. On harmonise le corps et l'esprit. On libère ce stress. On l'accueille et puis on le libère. On prend le positif. On se détend. Donc, il y a des exercices de respiration, des exercices avec des mouvements, donc dans l'intention de se libérer et dans l'intention de se gorger de positif. On a des relâchements musculaires, des tensions relâchements, des détentes, donc mentales et corporelles, qui se font au niveau sophroliminal, c'est-à-dire entre veille et sommeil. On a les ondes cérébrales alpha. Là, on est là. C'est là où on se travaille, où le travail se fait. Et on fait des visualisations positives. Et là, on amène des sensations positives, justement. Voilà. Donc, la sophrologie repose sur deux lois. La loi de la vivance, c'est-à-dire ressentir son corps à l'intérieur de soi. Toutes ces sensations positives, se sentir vivant, ici et maintenant. Et la loi de la répétition. La répétition d'exercice est nécessaire pour une transformation. Voilà. Alors, moi, je fais des séances en individuel. Donc, sur une problématique d'une personne. Alors, je vois beaucoup de gens qui viennent parce qu'ils ont un stress au travail. Parfois, ils sont en burn-out. Voilà. Et je fais aussi des séances en groupe. donc dans les entreprises. Et là, c'est sur une thématique générale. Donc, ça peut être la prévention des risques psychosociaux, la gestion du stress, des émotions, mieux être au quotidien, amélioration du sommeil, etc. Donc, en général, c'est 5 à 10 séances. Bon, 5 séances, c'est bien déjà. Hein. Et chaque séance, comment ça se passe ? Ça dure une heure, à peu près. Alors, en groupe, moi, je propose souvent des groupes de 6 à 12 personnes. 12, c'est bien. Plus, c'est un peu... Bon, c'est un peu trop, je trouve. 12, c'est bien. Et donc, on a la météo du jour, accueil des personnes. Météo du jour, ils me font un petit constat de comment ils sont là maintenant. Présentation du thème et des exercices du jour. Donc, le thème change hein, à chaque séance. Je fais parfois une petite pédagogie, comme là, sur le stress. Pratique des exercices. Donc, les gens, ils pratiquent. Ils ressentent leur corps et ils me font un retour après. Donc, sur leur ressenti, sur leurs sensations, comment ils sentent après. Voilà. Et ce que je voulais vous préciser, c'est quand même... C'est que certaines mutuelles prennent en charge les séances de sophrologie. Pas en entier, mais une partie. Donc ça, c'est un plus pour certaines personnes. Voilà. Alors, je vais vous montrer. Donc la sophrologie en groupe, en entreprise, permet donc de mieux gérer son stress, de se détendre, de prendre des moments de pause, de se redynamiser, de favoriser la communication, de renforcer la cohésion de groupe et de se préparer mentalement à des événements, à des changements, etc. Donc, c'est vraiment de plus en plus utilisé hein, en entreprise. Donc, ça, c'est un point important. Et là, je vais vous montrer mes retours. Donc, en général, problème de départ, que ce soit en individuel ou en groupe, il y a le stress. Les troubles du sommeil et la fatigue. Les troubles musculo-squelettiques. Vous savez, ces tensions là derrière la nuque, les trapèzes, les épaules, les coudes, les poignets aussi, et surtout le dos. Souvent le dos, hein, le mal de dos, hein, c'est le mal du siècle. Et manque de confiance en soi. Voilà. Et leurs besoins, alors je leur demande, hein, qu'est-ce que vous attendez de la sophrologie ? Ben, en fait, elles veulent apprendre à gérer leur stress, leurs émotions, leurs tensions, apprendre à se détendre. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'avec la sophrologie, elles sont autonomes. Elles ont les outils, elles les utilisent en fonction de leurs besoins. À chaque moment, voilà, s'il y a quelque chose qui se passe, une émotion qui arrive, hop, je la lâche. Et après, je peux exprimer ma colère, mais pas pour s'affirmer, justement, mais pas dans l'agressivité. On s'affirme aussi. Et l'amélioration du sommeil, de ses relations avec autrui, de relations aussi avec avec son conjoint, parce que des fois, on ramène le travail à la maison, donc ce n'est pas toujours simple. Et devenir aussi plus positif et confiant. Voilà. Alors, les retours. À chaque séance, elles ont des sensations agréables. Ça peut être de la chaleur, de bien-être, etc. Donc, elles sont plus calmes, plus détendues. Elles ont plus confiance en elles. Il y a une harmonie, un optimisme et le sourire. Souvent, elles sortent avec le sourire. Et à la fin des séances, donc c'est 5 à 10 séances hein, en général, en groupe, en entreprise, donc 100% des personnes disent qu'elles ont atteint leurs attentes. Elles ont atteint leurs objectifs. Gestion du stress, des émotions, des tensions, meilleur sommeil, mieux être au quotidien, au travail, à la maison, confiance. Et donc, on atteint cet équilibre et cette performance qu'on recherche. Et l'entreprise, vous me direz, mais en fait, il y a diminution de l'absentéisme, amélioration du climat social, meilleure relation entre les collègues, donc mieux être au quotidien des salariés, dit meilleure efficacité, meilleure performance. Donc là, vous avez eu un résumé. Et maintenant, je vais vous inviter à faire un exercice. Parce que c'est bien beau d'en parler, mais ce qui est bien, c'est de l'expérimenter. Donc, je vous mets la petite... voilà. Alors, pour ceux qui peuvent se lever, si tout le monde peut se lever, je vais vous demander de vous lever. Alors, moi, comment je fais, moi ? Je l'amène ? Hop. Juste, ah oui. Voilà. Ouais, c'est plus simple ça. Donc là, alors, on met les pieds écartés, largeur des épaules, le dos droit, les épaules abaissées, la mâchoire desserrée. Et vous sentez bien vos pieds dans vos chaussures, les talons, les orteils. Et vous êtes bien posé sur vos deux pieds, bien ancrés dans la terre. Vous imaginez que vous avez un fil, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale, le menton légèrement rentré. Voilà. Et vous allez imaginer que vous êtes assis sur un tabouret haut. Donc là, vous fléchissez légèrement les genoux pour faire le basculement du bassin. Voilà. Donc là, vous êtes vraiment dans votre posture de verticalité, d'être présent ici maintenant. Et vous sentez votre corps là. Voilà. Et donc, vous êtes ici et maintenant dans l'instant présent. Donc là, je vais vous montrer l'exercice avant, parce que des fois, les gens, ils font avant pendant pour moi, mais voilà. Donc, vous allez souffler d'abord. Vous inspirerez, ni trop vite, ni trop fort. Vous fermerez vos deux poings. Vous retiendrez votre respiration. Et vous ferez des mouvements de haut en bas avec vos épaules, comme ça. Et quand vous ne pouvez plus retenir la respiration, vous ouvrirez vos poings et vous soufflerez, comme si vous vidiez toute votre pression, votre stress de la journée, là. Et on fait toujours l'exercice trois fois. Et on accueille les sensations entre les plusieurs exercices, là. Et on ressent, donc on écoute ce qui se passe sans jugement et avec bienveillance. Voilà. Donc, on va le faire. Donc, vous soufflez. Vous inspirez. Ni trop vite, ni trop fort. Vous fermez vos poings. Voilà. Et vous faites des mouvements de haut en bas avec les épaules. C'est les épaules qui bougent. Le temps que vous pouvez, et quand vous ne pouvez plus retenir la respiration, vous ouvrez vos poings et vous imaginez, vous soufflez bien avec la par la bouche, et vous imaginez, vous libérez toute cette pression que vous avez là sur les épaules. Voilà, vous soufflez bien, et là vous accueillez. Une deuxième fois, vous soufflez, vous inspirez. Vous retenez la respiration, vous faites les mouvements de haut en bas avec vos épaules. Les épaules qui bougent, comme si, voilà. Et quand vous ne pouvez plus retenir, vous ouvrez vos poings et vous soufflez grande, voilà, par la bouche. Et vous libérez toutes ces colères, ces pressions que vous avez. Vous accueillez ce qui se passe. Et une troisième fois, quand vous êtes prêt, je regarde si vous avez bien compris. Et après, quand vous ne pouvez plus, vous soufflez, vous évacuez. C'est comme si ça partait dans la terre. Et là, vous accueillez les sensations. Alors, ça peut être de la chaleur, de la fraîcheur, des picotements, des fourmillements, comme une légèreté, un mieux-être, une détente. Voilà, vous accueillez. C'est là que le travail se fait, principalement. Voilà. Ça rigole par là, c'est bien. En bail, ah oui, pardon. Donc là, vous pouvez vous asseoir. Et je vais faire un petit sondage, parce que je suis un petit peu curieuse quand même. Qui c'est qui n'a pas eu de sensation? Ça peut arriver, hein, vous inquiétez pas, ça peut... Et qui a eu des sensations agréables? Ouais. Oui, c'est pas mal, ça. Alors, il y en a eu qui ont des petites sensations désagréables. Ça peut arriver aussi, hein. Bon, mais super. Donc, vous pourrez dire que vous avez testé un exercice de sophrologie. Et je vous invite, si vous voulez continuer avec moi, de prendre rendez-vous avec moi. Tant qu'à faire. C'est bien. Donc là, je vous remercie beaucoup, en tout cas. Ouais, ça, c'est moi. Mais c'est mes petites clientes, là. Et je finis toujours par sourire à la vie. Ouvrez les yeux et souriez à la vie. Donc, c'est pour ça que je mets que souvent, elles finissent avec le sourire aux lèvres. Voilà. Donc, alors, vous pouvez l'utiliser, hein, cet exercice qui est très simple à faire, soit sous la douche, si vous avez envie, voilà, ou dès que vous avez une pression au travail, vous pouvez aller libérer cette pression et lâcher tout ça. Voilà, je vous remercie beaucoup.
Merci. Merci à vous. Eh bien, on va terminer.